Chapitre 11. Le camp des rebelles. Je quittai le général et m'empressai de retourner chez moi. Savéliitch me reçut avec ses remontrances ordinaires. « Quel plaisir trouves-tu, seigneur, à batailler contre ces brigands ivres? Est-ce l'affaire d'un boyard? Les heures ne sont pas toujours bonnes et tu te feras tuer pour rien. Encore, si tu faisais la guerre aux Turcs ou aux Suédois, mais c'est une honte de dire à qui tu l'as fait. » J'interrompis son discours. « Combien ai-je en tout d'argent ?»« Oh, tu as encore assez, » me répondit-il d'un air satisfait. « Les coquins ont eu beau fouiller partout, j'ai pu le leur souffler. » Et disant cela, il tira de sa poche une longue bourse tricotée toute remplie de pièces de monnaie d'argent. « Bien, Savéliitch, lui dis-je, donne-moi la moitié de ce que tu as là et garde-toi le reste. Je pars pour la forteresse de Bielogorsk. »« Oh, mon père Piotr Andreïtch, dit mon beau menin d'une voix tremblante, est-ce que tu ne crains pas Dieu? Comment veux-tu te mettre en route maintenant que tous les passages sont coupés par les voleurs? Prends du moins pitié de tes parents si tu n'as pas pitié de toi-même. » Où veux-tu aller? Pourquoi? Attends un peu, les troupes viendront et prendront tous les brigands, alors tu pourras aller des quatre côtés. Mais ma résolution était inébranlable. Il est trop tard pour réfléchir, dis-je au vieillard. Je dois partir, je ne puis pas ne pas partir. Ne te chagrine pas, Savéliitch, Dieu est plein de miséricorde. Nous nous reverrons peut-être. Je te recommande bien de n'avoir aucune honte de dépenser mon argent. Ne fais pas l'avare. Achète tout ce qui est nécessaire, même en payant les choses trois fois leur valeur. Je te fais cadeau de cet argent, si je ne reviens pas dans trois jours. « Que dis-tu là, seigneur ?» interrompit Savéliitch. « Que je te laisse aller seul ? Mais ne pense même pas à m'en prier. » « Si tu as résolu de partir, j'irai avec toi, fût-ce à pied, mais je ne t'abandonnerai pas. »« Que je reste sans toi, blotti derrière une muraille de pierre, j'aurais donc perdu l'esprit. »« Fais ce que tu voudras, Seigneur, mais je ne te quitte pas. » Je savais bien qu'il n'y avait pas à disputer contre le Savéliitch, et je lui permis de se préparer pour le départ. Au bout d'une demi-heure, j'étais en selle sur mon cheval, et Savéliitch sur une rosse maigre et boiteuse qu'un habitant de la ville lui avait donnée pour rien, n'ayant plus de quoi la nourrir. Nous gagnâmes les portes de la ville, les sentinelles nous laissèrent passer, et nous sortîmes enfin d'Orenbourg. Il commençait à faire nuit. La route que j'avais à suivre passait devant la bourgade de Berd, repère de Pougatchev. Cette route était encombrée et cachée par la neige, mais à travers la steppe se voyaient des traces de chevaux chaque jour renouvelées. J'allais au grand trot. Savéliitch avait peine à me suivre et me criait à chaque instant « Pas si vite, Seigneur, au nom du ciel, pas si vite !» Ma maudite rosse ne peut pas attraper ton diable à longue jambe. Pourquoi te hâtes-tu de la sorte? Est-ce que nous allons à un festin? Nous sommes plutôt sous la hache, Piotr Andreïtch. Oh, Seigneur Dieu, cet enfant de boyard périra pour rien. » Bientôt nous vîmes étinceler les feux de Berd. Nous approchâmes des profonds ravins qui servaient de fortifications naturelles à la bourgade. Savéliitch, sans rester pourtant en arrière, n'interrompait pas ses supplications lamentables. J'espérais passer heureusement devant la place ennemie, lorsque j'aperçus tout à coup dans l'obscurité cinq paysans armés de gros bâtons. C'était une garde avancée du camp de Pougatchev. On nous cria « Qui vive ?» Ne sachant pas le mot d'ordre, je voulais passer devant eux sans répondre, mais ils m'entourèrent à l'instant même, et l'un d'eux saisit mon cheval par la bride. Je tirai mon sabre et frappai le paysan sur la tête. Son bonnet lui sauva la vie. Cependant, il chancela et lâcha la bride. Les autres s'effrayèrent et se jetèrent de côté. Profitant de leur frayeur, je piquai les deux et partis au galop. L'obscurité de la nuit qui s'assombrissait aurait pu me sauver de tout encombre, lorsque, regardant en arrière, je vis que Savéliitch n'était plus avec moi. Le pauvre vieillard, avec son cheval boiteux, n'avait pu se débarrasser des brigands. Qu'avais-je à faire? Après avoir attendu quelques instants et certain qu'on l'avait arrêté, je tournai mon cheval pour aller à son secours. En approchant du ravin, j'entendis de loin des cris confus et la voix de mon Savéliitch. Hâtant le pas, je me trouvai bientôt à la portée des paysans de la garde avancée qui m'avaient arrêté quelques minutes auparavant. Savéliitch était au milieu d'eux. Ils avaient fait descendre le pauvre vieillard de sa rosse et se préparaient à le garrotter. Ma vue les remplit de joie. Ils se jetèrent sur moi avec de grands cris, et dans un instant, je fus à bas de mon cheval. L'un d'eux, leur chef, à ce qu'il paraît, me déclara qu'ils allaient nous conduire devant le tsar. « Et notre père, ajouta-t-il, ordonnera s'il faut vous pendre à l'heure même ou si l'on doit attendre la lumière de Dieu. » Je ne fis aucune résistance. Savéliitch imita mon exemple, et les sentinelles nous emmenèrent en triomphe. Nous traversâmes le ravin pour entrer dans la bourgade. Toutes les maisons de paysans étaient éclairées. On entendait partout des cris et du tapage. Je rencontrai une foule de gens dans la rue, mais personne ne fit attention à nous et ne reconnut en moi un officier d'Orenbourg. On nous conduisit à une isba qui faisait l'angle de deux rues. Près de la porte se trouvaient quelques tonneaux de vin et deux pièces de canon. « Voilà le palais, » dit l'un des paysans. « Nous allons vous annoncer. » Il entra dans l'isba. Je jetai un coup d'œil sur Savéliitch. Le vieillard faisait des signes de croix en marmottant ses prières. Nous attendîmes longtemps. Enfin, le paysan reparut et me dit « Viens, notre père a ordonné de faire entrer l'officier. » J'entrai dans l'isba ou dans le palais, comme l'appelait le paysan. Elle était éclairée par deux chandelles en suif et les murs étaient tendus de papier d'or. Du reste, tous les meubles, les bancs, la table, le petit pot à laver les mains, suspendu à une corde, l'essuie-main accroché à un clou, la fourche enfournée dressée dans un coin, le rayon en bois chargé de pots en terre, tout était comme dans une autre isba. Pougatchev se tenait assis sous les saintes images, en cafetan rouge et en haut bonnet, la main sur la hanche. Autour de lui étaient rangés plusieurs de ses principaux chefs, avec une expression forcée de soumission et de respect. On voyait bien que la nouvelle de l'arrivée d'un officier d'Orenbourg avait éveillé une grande curiosité chez les rebelles et qu'ils s'étaient préparés à me recevoir avec pompe. Pougatchev me reconnut au premier coup d'œil. Sa feinte gravité disparut tout à coup. « Ah, c'est votre seigneurie, » me dit-il avec vivacité. « Comment te portes-tu? Pourquoi Dieu t'amène-t-il ici ?» Je répondis que je m'étais mis en voyage pour mes propres affaires et que ces gens m'avaient arrêté. « Et pour quelles affaires ?» demanda-t-il. « Oh, je savais que répondre. Pougatchev, s'imaginant que je ne voulais pas m'expliquer devant témoin, fit signe à ses camarades de sortir. Tous obéirent, à l'exception de deux qui ne bougèrent pas de leur place. « Au parleur du banc devant eux, » dit Pougatchev, « ne leur cache rien. » Je jetai un regard de travers sur ces deux confidents de l'usurpateur. L'un d'eux, petit vieillard chétif et courbé, avec une maigre barbe grise, n'avait rien de remarquable qu'un large ruban bleu passé en sautoir sur son cafetan de gros drap gris. Mais je n'oublierai jamais son compagnon. Il était de haute taille, de puissante carrure et semblait avoir 45 ans. Une épaisse barbe rouge, des yeux gris et perçants, un nez sans narines et des marques de fer rouge sur le front et sur les joues, donnait à son large visage clôturé de petites véroles une étrange et indéfinissable expression. Il avait une chemise rouge, une robe kirghize et de larges pantalons cosaques. Le premier, comme je le sus plus tard, était le caporal déserteur Bielobrodov. L'autre, Athanase Sokolov, surnommé Khlopoucha, était un criminel condamné aux mines de Sibérie, d'où il s'était évadé 3 fois. Malgré les sentiments qui m'agitaient alors sans partage, cette société où j'étais jeté d'une manière si inattendue fit sur moi une profonde impression. Mais Pougatchev me rappela bien vite à moi-même par ses questions. « Parle, pour quelles affaires es-tu quitté, Orenbourg ?» Une idée singulière me vint à l'esprit. Il me sembla que la Providence, en m'amenant une seconde fois devant Pougatchev, me donnait par là l'occasion d'exécuter mon projet. Je me décidai à la saisir, et sans réfléchir longtemps au parti que je prenais, je répondis à Pougatchev « J'allais à la forteresse de Biegorlorsk pour y délivrer une orpheline qu'on opprime. » Les yeux de Pougatchev s'allumèrent. « Qui de mes gens oserait offenser une orpheline ? » s'écria-t-il. « Eut-il un front de 7 pieds, il n'échapperait point à ma sentence. Parle, quel est le coupable ?»« Schwabrin, répondis-je. Il tient en esclavage la même jeune fille que tu as vue chez la femme du prêtre, et il veut la contraindre à devenir sa femme. « Je vais lui donner une leçon à Schwabrin !» s'écria Pougatchev d'un air farouche. « Il apprendra ce que c'est que de faire chez moi à sa tête et d'opprimer mon peuple. Je le ferai pendre. » « Ordonne-moi de dire un mot, » interrompit Khlopoucha d'une voix enrouée. « Tu es droité de donner à Schwabrin le commandement de la forteresse et maintenant tu te hâtes de le perdre. » « Tu as déjà offensé les Cosaques en leur imposant un gentilhomme pour chef. Ne va donc pas offenser à présent les gentilshommes en les suppliant à la première occasion. » Il n'y a à les combler de grâce ni à les prendre en pitié, dit à son tour le petit vieillard au ruban bleu. Il n'y a pas de mal de faire pendre Schwabrin, mais il n'y aurait pas de mal de bien questionner, monsieur l'officier. Pourquoi a-t-il dédaigné nous rendre visite? S'il ne te reconnaît pas pour tsar, il n'a pas à te demander justice. Et s'il te reconnaît, pourquoi est-il resté jusqu'à présent à Orenbourg, au milieu de tes ennemis? N'ordonnerais-tu pas de le faire conduire au greffe et d'y allumer un peu de feu? Il me semble que sa grâce nous est envoyée par les généraux d'Orenbourg. La logique du vieux scélérat me sembla plausible à moi-même. Un frisson involontaire me parcourut tout le corps quand je me rappelais en quelles mains je me trouvais. Pougatchev aperçut mon trouble. « Eh bien, votre seigneurie, dit-il en clignant de l'œil, il me semble que mon feld-maréchal a raison. Qu'en penses-tu ? » Le persiflage de Pougatchev me rendit ma résolution. Je lui répondis, avec calme, que j'étais en sa puissance et qu'il pouvait faire de moi ce qu'il voulait. « Bien, » dit Pougatchev. « Dis-moi maintenant dans quel état est votre ville. » Grâce à Dieu, répondis-je, tout y est en bon ordre. En bon ordre, répéta Pougatchev. Et le peuple y meurt de faim. L'usurpateur disait la vérité, mais d'après le devoir que m'imposait mon serment, je l'assurais que c'était un faux bruit et que la place de Rembourg était suffisamment apprévisionnée. « Tu vois ? » s'écria le petit vieillard, « qui te trompe avec impudence. » Tous les vieillards, tous les fuyards, tous déclarent unanimement que la famine et la peste sont à Orenbourg sans qu'on y mange de la charogne et encore comme un mets d'honneur. Et sa grâce nous assure que tout est en abondance. Si tu veux pendre Schwabrine, fais pendre même Gibet, ce jeune garçon, pour qu'il n'ait rien à se reprocher. Les paroles du maudit vieillard semblaient avoir ébranlé Pougatchev. Par bonheur, Chlopoucha se mit à contredire son camarade. Oh, « Tais-toi, Naumitch, lui dit-il. Tu penses qu'à perdre et à étrangler. Il te va bien de faire le héros. À te voir, on ne sait où ton âme se tient. Tu regardes déjà dans la fosse et tu veux faire mourir les autres. Est-ce que t'as pas assez de sang sur la conscience ?»« Mais quel saint es-tu toi-même ?» repartit Bielobrodov. « D'où te vient cette pitié ?» Sans doute, répondit Chlopoucha, moi aussi je suis un pêcheur, et cette main. Il ferma son poing osseux, et retroussant sa manche, il montra son bras velu. Et cette main est coupable d'avoir versé du sang chrétien. Mais j'ai tué mon ennemi, et non pas mon hôte, sur le grand chemin libre, et dans le bois obscur, mais non à la maison et derrière le poêle, avec la hache et la massue, et non pas avec des commérages de vieilles femmes. Le vieillard détourna la tête et grommela entre ses dents « Narines arrachées !»« Que murmures-tu là, vieux hibou ?» reprit Chlopoucha. « Je t'ordonnerai les narines arrachées. Attends un peu. Ton temps viendra aussi. J'espère en Dieu que tu flaireras aussi les pincettes un jour. Et jusque-là, prends garde que je t'arrache ta vilaine barbiche. » « Messieurs les généraux, dit Pougatchev avec dignité, finissez vos querelles. Ce serait pas un grand malheur, et tous les chiens galeux d'Orenbourg frétillaient les jambes sous la même traverse, mais ce serait un malheur si nos bons chiens à nous se mordaient entre eux. » Chlopoucha et Bielodorov ne dirent mot et échangèrent un sombre regard. Je sentis la nécessité de changer le sujet de l'entretien qui pouvait se terminer pour moi d'une fort désagréable façon. Me tournant vers Pougatchev, je lui dis d'un air souriant « Ah, j'avais oublié de te remercier pour ton cheval et ton touloupe. Sans toi, je ne serais pas arrivé jusqu'à la ville car je serais mort de froid pendant le trajet. » Ma ruse réussit. Pougatchev se mit de bonne humeur. « La beauté de la dette, c'est le paiement, » me dit-il avec son habituel clignement d'œil. « Conte-moi maintenant l'histoire. Qu'as-tu à faire avec cette jeune fille que Schwabrine persécute? N'aurait-elle pas accroché ton jeune cœur et... » Elle est ma fiancée, » répondis-je à Pougatchev, en m'apercevant du changement favorable qui s'opérait en lui et ne voyant aucun risque à lui dire la vérité. « Ta fiancée ! » s'écria Pougatchev. « Mais pourquoi l'as-tu pas dit plus tôt ? Nous te marierons et nous ordonnerons à tes noces. » Puis, se tournant vers Bielobrodov, « Écoute, fais le maréchal, lui dit-il. Nous sommes d'anciens amis, sa seigneurie et moi. Mettons-nous à souper. Demain, nous verrons ce qu'il faut faire de lui. Le matin est plus sage que le soir. » j'aurais refusé de bon cœur l'honneur qui m'était proposé, mais je ne pouvais m'en défendre. Deux jeunes filles cosaques, enfants du maître de l'isba, couvrirent la table d'une nappe blanche, apportèrent du pain, de la soupe aux poissons et des brocs de vin et de bière. Je me trouvais ainsi pour la seconde fois à la table de Pougatchev et de ses terribles compagnons. L'orgie, dont je devins le témoin volontaire, continua jusque bien avant dans la nuit. Enfin, l'ivresse finit par triompher des convives. Pougatchev s'endormit sur sa place et ses compagnons se levèrent en me faisant signe de le laisser. Je sortis avec eux. Sur l'ordre de Khlopoucha, la sentinelle me conduisit au greffe où je trouvais Savévitch, et l'on me laissa seul avec lui sous clé. Mon menin était si étonné de tout ce qu'il voyait et de tout ce qui se passait autour de lui, qu'il ne me fit pas la moindre question. Il se coucha dans l'obscurité, et je l'entendis longtemps gémir et se plaindre. Enfin, il se mit à ronfler, et moi, je m'abandonnai à des réflexions à qui ne me laissèrent pas fermer l'œil un instant de la nuit. Le lendemain matin, on vint m'appeler de la part de Pougatchev. Je me rendis chez lui. Devant sa porte se tenait une kibitka attelée de 3 chevaux tartares. La foule encombrait la rue. Pougatchev, que je rencontrais dans l'antichambre, était vêtu d'un habit de voyage, d'une pelisse et d'un bonnet kirghize. Ses convives de la veille l'entouraient et avaient pris un air de soumission qui contrastait fort avec ce que j'avais vu le soir précédent. Pougatchev me dit gaiement bonjour et m'ordonna de m'asseoir à ses côtés dans la kibitka. Nous prîmes place. « À la forteresse de Bielogorsk !» dit Pougatchev au robuste cocher tatar qui debout dirigeait l'attelage. Mon cœur battit violemment. Les chevaux s'élancèrent, la clochette tinta, la kibitka vola sur la neige. « Arrête, arrête !» s'écria une voix que je ne connaissais que trop, et je vis Savelitch qui courait à notre rencontre. Pougatchev fit arrêter. « Oh, mon père Piotr Andreïtch !» criait mon menin. « Ne m'abandonne pas dans mes vieilles années au milieu de ces... »« Oh, vieux hibou !» dit Pougatchev. « Dieu nous fait encore rencontrer. »« Voyons, allez, assieds-toi sur le devant. » « Merci, tsar, merci, mon propre père, » répondit Savelitch en prenant place. « Que Dieu te donne 100 années de vie pour avoir assuré un pauvre vieillard. Je prierai Dieu toute ma vie pour toi, je ne parlerai jamais du touloup de lièvre. » Ce touloup de lièvre pouvait à la fin fâcher sérieusement Pougatchev. Mais l'usurpateur n'entendit pas ou affecta de ne pas entendre cette mention déplacée. Les chevaux se remirent au galop. Le peuple s'arrêtait dans la rue et chacun nous saluait en se courbant jusqu'à la ceinture. Pougatchev distribuait des signes de tête à droite et à gauche. En un instant, nous sortîmes de la bourgade et prîmes notre course sur un chemin bien frayé. On peut aisément se figurer ce que je ressentais. Dans quelques heures, je devais revoir celle que j'avais cru perdue à jamais pour moi. Je me représentais le moment de notre réunion, mais aussi je pensais à l'homme dans les mains duquel se trouvait ma destinée et qu'un étrange concours de circonstances attachait à moi par un lien mystérieux. Je me rappelais la cruauté brusque et les habitudes sanguinaires de celui qui se portait le défenseur de ma fiancée. Pougatchev ne savait pas quelle fut la fille du capitaine Mironov. Chvabrine, poussée à bout, était capable de tout lui révéler et Pougatchev pouvait apprendre la vérité par d'autres voies. Alors que devenait Marie ? À cette idée, un frisson subit parcourait mon corps et mes cheveux se dressaient sur ma tête. Tout à coup, Pougatchev interrompit mes rêveries. « À quoi, votre seigneurie, dit-il, daignes-tu penser ?»« Comment veux-tu que je ne pense pas, répondis-je. Je suis un officier, un gentilhomme. Hier encore, je te faisais la guerre, et maintenant, je voyage avec toi dans la même voiture, et tout le bonheur de ma vie dépend de toi. »« Quoi donc ? Dit Pougatchev. As-tu peur ? » Je répondis qu'ayant déjà reçu de lui grâce de la vie, j'espérais non seulement sa bienveillance, mais encore en son aide. « Eh, tu as raison devant Dieu, tu as raison, » reprit l'usurpateur. « Tu as vu que mes gaillards te regardaient de travers. Encore aujourd'hui, le petit vieux voulait me prouver à toute force que tu es un espion et qu'il fallait te mettre à la torture puis te pendre. Mais je n'y ai pas consenti, » ajouta-t-il en baissant la voix de peur que Savéliitch et le Tatar ne l'entendissent, « parce que je me suis souvenu de ton verre de vin et de ton touloupe. Tu vois bien que je ne suis pas un buveur de sang, comme le prétend ta confrérie. » Me rappelant la prise de la forteresse de Bielokorsk, je ne crus pas devoir le contredire et ne répondis mot. « Que dit-on de moi, Orenbourg ?» demanda Pougatchev après un court silence. « Ben, on dit que tu n'es pas facile à mater. Il faut en convenir, tu nous as donné de la besogne. » Le visage de l'usurpateur exprima la satisfaction de l'amour-propre. « Oui, me dit-il d'un air glorieux, je suis un grand guerrier. » « Connaît-on chez vous, à Orenbourg, la bataille de Louzieff ? 40 généraux ont été tués, 4 armées faites prisonnières. Crois-tu que le roi de Prusse soit de ma force ?» La fanfaronnade du brigand me sembla passablement drôle. « Mais qu'en penses-tu toi-même, lui dis-je ? Pourrais-tu battre Frédéric ?»« Fiodor Fiodorovitch ? Et pourquoi pas ?» « Je bats bien vos généraux et vos généraux l'ont battu. Jusqu'à présent, mes armes ont été heureuses. Attends, attends, tu en verras bien d'autres quand je marcherai sur Moscou. »« Et tu comptes marcher sur Moscou ?» L'usurpateur se mit à réfléchir. Puis il dit à demi-voix, « Dieu sait, ma rue est étroite, j'ai peu de volonté. » Mes garçons ne m'obéissent pas, oh, ce sont des pillards. Il me faut dresser l'oreille. Au premier revers, ils sauveront leur cou avec ma tête. Eh bien, dis-je à Pougatchev, ne vaudrait-il pas mieux les abandonner toi-même, avant qu'il ne soit trop tard, et avoir recours à la clémence de l'impératrice ? Pougatchev sourit amèrement. Non, dit-il. Le temps du repentir est passé. On ne me fera plus grâce. Je continuerai comme j'ai commencé. Qui sait, peut-être. Grisha Trepiev a bien été tsar à Moscou. Mais sais-tu comment il a fini? On l'a jeté par une fenêtre, on l'a massacré, on l'a brûlé, on a chargé un canon de sa cendre et on l'a dispersé à tous les vents. Le Tatar se mit à fredonner une chanson plaintive. Savéliitch, tout endormi, vacillait de côté et d'autre. Notre kibitka glissait rapidement sur le chemin d'hiver. Tout à coup, j'aperçus un petit village bien connu de mes yeux, avec une palissade et un clocher sur la rive escarpée du Laïc. Un quart d'heure après, nous entrions dans la forteresse de Bielogorsk. Chapitre 12. L'orpheline. La kibitka s'arrêta devant le perron de la maison du commandant. Les habitants avaient reconnu la clochette de Pougatchev et étaient accourus en foule. Chvabrine vint à la rencontre de l'usurpateur. Il était vêtu en cosaque et avait laissé croître sa barbe. Le traître aida Pougatchev à sortir de voiture en exprimant par des paroles obséquieuses son zèle et sa joie. À ma vue, il se troubla, mais se remettant aussitôt, « Oh, tu es avec nous, » dit-il. « Ce devait être depuis longtemps. » Je détournai la tête sans lui répondre. Mon cœur se serra quand nous entrâmes dans la petite chambre que je connaissais si bien, où se voyait encore contre le mur le diplôme du défunt commandant comme une triste épitaphe. Pougatchev s'assit sur ce même sofa où maintes fois Ivan Kouzmitch s'était assoupi au bruit des gronderies de sa femme. Chvabrine apporta lui-même de l'eau-de-vie à son chef. Pougatchev en but un verre et lui dit en me désignant « Offre-en un autre à sa seigneurie. » Chvabrine s'approcha de moi avec son plateau. Je me détournai pour la seconde fois. Il me semblait hors de lui-même. Avec sa finesse ordinaire, il avait deviné sans doute que Pougatchev n'était pas content de lui. Il le regardait avec frayeur et moi avec méfiance. Pougatchev lui fit quelques questions sur l'état de la forteresse, sur ce qu'on disait les troupes de l'impératrice et sur d'autres sujets pareils. Puis, tout à coup et d'une manière inattendue, « Dis-moi, mon frère, demanda-t-il, quelle est cette jeune fille que tu tiens sous ta garde? Montre-la-moi. » Chvabrine devint pâle comme la mort. « Tsar, dit-il d'une voix tremblante, Tsar, elle n'est pas sous ma garde, elle est au lit, dans sa chambre. « Mène-moi chez elle, dit l'usurpateur en se levant. Il était impossible d'hésiter. Chvabrine conduisit Pougatchev dans la chambre de Marie Ivanovna. Je l'ai suivi. Chvabrine s'arrêta dans l'escalier. Tsar, dit-il, vous pouvez exiger de moi ce qu'il vous plaira, mais ne permettez pas qu'un étranger entre dans la chambre de ma femme. Tu es marié ? M'écriai-je, prêt à le déchirer. « Silence !» s'interrompit Pougatchev. « C'est mon affaire. »« Et toi, continua-t-il en se tournant vers Chvabrine, ne fais pas l'important. Qu'elle soit ta femme ou non, j'amène qui je veux chez elle. »« Votre seigneur, y suis-moi. » À la porte de la chambre, Chvabrine s'arrêta de nouveau et dit d'une voix entrecoupée, Tsar, je vous préviens qu'elle a la fièvre, et depuis 3 jours elle ne cesse de délirer. Ouvre, dit Pougatchev. Chvabrine se mit à fouiller dans ses poches et finit par dire qu'il avait oublié la clé. Pougatchev poussa la porte du pied, la serrure céda, la porte s'ouvrit et nous entrâmes. Je jetai un rapide coup d'œil dans la chambre et faillis m'évanouir. Sur le plancher, et dans un grossier vêtement de paysanne, Marie était assise, pâle, maigre, les cheveux épars. Devant elle se trouvait une cruche d'eau recouverte d'un morceau de pain. À ma vue, elle frémit et poussa un cri perçant. Oh, je ne saurais dire ce que j'éprouvais. Pougatchev regarda Chvabrine de travers et lui dit avec un amer sourire « Ton hôpital est en ordre !» Puis, s'approchant de Marie, « Dis-moi, ma petite colombe, pourquoi ton mari te punit-il ainsi ?»«
Mon mari » reprit-elle, « mais il n'est pas mon mari. Jamais je ne serai sa femme. » Je suis résolu à mourir plutôt, et je mourrai si l'on ne me délivre pas. »
Pougatchev lança un regard furieux sur Schwabrine. « Tu as osé me tromper » s'écria-t-il. « Sais-tu, coquin, ce que tu mérites ?» Schwabrine tomba à genoux. Alors, le mépris étouffa en moi tout sentiment de haine et de vengeance. Je regardais avec dégoût un gentilhomme se traîner au pied d'un déserteur cosaque. Pougatchev se laissa fléchir. « Je te pardonne pour cette fois, » dit-il à Schwabrine. « Mais sache bien qu'à ta première faute, je me rappellerai celle-là. » Puis, s'adressant à Marie, il lui dit avec douceur, « Sors, jolie fille, je suis le tsar. » Marie Ivanovna lui jeta un coup d'œil rapide et devina que c'était l'assassin de ses parents qu'elle avait devant les yeux. Elle se cacha le visage des deux mains et tomba sans connaissance. Je me précipitai pour la secourir lorsque ma vieille connaissance Palashka entra fort hardiment dans la chambre et s'empressa autour de sa maîtresse. Pougatchev sortit et nous descendîmes tous trois dans la pièce de réception. « Hé, votre seigneurie, » me dit Pougatchev en riant, nous avons délivré la jolie fille. Qu'en dis-tu? Ne faudrait-il pas envoyer chercher le pape et lui faire marier sa nièce? Si tu veux, je serai ton père assis, Schwabrine, le garçon de noces, puis nous nous mettrons à boire et nous fermerons les portes. Ce que je redoutais arriva. Dès qu'il entendit la proposition de Pougatchev, Schwabrine perdit la tête. Tsar, dit-il en fureur, je suis coupable, je vous ai menti, mais Grigniev aussi vous trompe. Cette jeune fille n'est pas la nièce du pape, elle est la fille d'Ivan Mironov qui a été supplicié à la prise de cette forteresse. Pougatchev darda sur moi ses yeux flamboyants. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » s'écria-t-il avec la surprise de l'indignation. « Schwabrine t'a dit vrai, » répondis-je avec fermeté. « Tu ne m'avais pas dit cela, » reprit Pougatchev, dont le visage s'assombrit tout à coup. « Mais sois-en le juge, » lui répondis-je. Pouvais-je déclarer devant tes gens qu'elle était la fille de Mironov? Ils l'eussent déchirée à belles dents. Rien n'aurait pu la sauver. Tu as pourtant raison, dit Pougatchev, mais ivrogne n'aurait pas épargné cette pauvre fille. Ma commère, la femme du pape, a bien fait de les tromper. Écoute, continuai-je en voyant sa bonne disposition. Je ne sais comment t'appeler et ne veux pas le savoir. Mais Dieu voit que je serai prêt à te payer de ma vie ce que tu as fait pour moi. Ce monde ne me demande rien qui soit contraire à mon honneur et à ma conscience de chrétien. Tu es mon bienfaiteur. Finis comme tu as commencé. Laisse-moi aller avec la pauvre orpheline là où Dieu nous amènera. Et nous, quoi qu'il arrive et où que tu sois, nous prierons Dieu chaque jour pour qu'il veille au salut de ton âme. » Je parus avoir touché le cœur farouche de Pougatchev. « Qu'il soit fait comme tu le désires, » dit-il. « Il faut punir jusqu'au bout, pardonner jusqu'au bout, c'est là ma coutume. Prends ta fiancée, « emmène-la où tu veux, et que Dieu vous donne bonheur et raison. » Il se tourna vers Schwabrine et lui commanda de m'écrire un sauf-conduit pour toutes les barrières et forteresses soumises à son pouvoir. Schwabrin se tenait immobile et comme pétrifié. Pougatchev alla faire l'inspection de la forteresse. Schwabrin le suivit, et moi je restais, prétextant les préparatifs de voyage. Je courus à la chambre de Marie. La porte était fermée, je frappai. « Qui est là ?» demanda Palashka. Je me nommais. La douce voix de Marie se fit entendre derrière la porte. « Attendez, Piotr Andreïtch, dit-elle, je change d'habillement. Allez chez Akulina Pamphilovna, je m'y rends à l'instant même. » J'obéis et gagnai la maison du père Garassim. Le pope et sa femme accoururent à ma rencontre. Savelitch les avait déjà prévenus de tout ce qui s'était passé. « Bonjour, Piotr Andreïtch, me dit la femme du pope. « Voilà que Dieu a fait de telle sorte que nous nous revoyons encore. Comment allez-vous ? Nous avons parlé de vous chaque jour. Et Marie Ivanovna, que n'a-t-elle pas souffert sans vous, ma petite colombe ? Mais dites-moi, mon père, comment vous en êtes-vous tiré avec Pougatchev ? Comment ne vous a-t-il pas tué ? Eh bien, pour cela, merci au scélérat. « Fini, vieille !» interrompit le père Galassim. « Ne radote pas sur tout ce que tu sais. À trop parler, point de salut. Entrez, Piotr Andreïtch, et soyez le bienvenu. Il y a longtemps que nous nous sommes vus. » La femme du pope me fit honneur de tout ce qu'elle avait sous la main, sans cesser un instant de parler. Elle me raconta comment Schwabrin les avait contraints à lui livrer Marie Ivanovna, comment la pauvre fille pleurait et ne voulait pas se séparer d'eux, comment elle avait eu avec eux des relations continuelles par l'entremise de Palashka, ville fille adroite et résolue, qui faisait, comme on dit, danser l'ouriadnik lui-même au son de son flageolet, comment elle avait conseillé à Marie Ivanovna de m'écrire une lettre, etc., etc. De mon côté, je lui racontai en peu de mots mon histoire. Le pope et sa femme firent des signes de croix quand ils entendirent que Pougatchev savait qu'il l'avait trompé. « Que la puissance de la croix soit avec nous, disait Akulina Panfilovna. Que Dieu détourne ce nuage. Bien, Alexei Ivanitch, bien, fin renard. En ce moment, la porte s'ouvrit et Marie Ivanovna parut avec un sourire sur son pâle visage. Elle avait quitté son vêtement de paysanne et venait habillée comme de coutume, avec simplicité et bienséance. Je saisis sa main et ne pus pendant longtemps prononcer une seule parole. Nous gardions tous deux le silence par plénitude de cœur. Nos hôtes sentirent que nous avions autre chose à faire qu'à causer avec eux, et ils nous quittèrent. Nous restâmes seuls. Marie me raconta tout ce qui lui était arrivé depuis la prise de la forteresse, me dépeignit toute l'horreur de sa situation, tous les tourments que lui avait fait souffrir l'infâme Schwabrin. Nous rappelâmes notre heureux passé, en versant tous deux des larmes. Enfin, je ne pouvais lui communiquer mes projets. Il lui était impossible de demeurer dans une forteresse soumise à Pougatchev et commandée par Schwabrin. Je ne pouvais pas non plus penser à me réfugier avec elle dans Orenbourg, qui souffrait dans ce moment toutes les calamités d'un siège. Marie n'avait plus un seul parent dans le monde. Je lui proposai donc de se rendre à la maison de campagne de mes parents. Elle fut toute surprise d'une telle proposition. La mauvaise disposition qu'avait montrée mon père à son égard lui faisait peur. Je la tranquillisais. Je savais que mon père tiendrait à devoir et à honneur de recevoir chez lui la fille d'un vétéran mort pour sa patrie. « Chère Marie, lui dis-je enfin, je te regarde comme ma femme. Ces événements étranges nous ont réunis irrévocablement. Rien au monde ne saurait plus nous séparer. » Marie Ivanovna m'écoutait dans un silence digne, sans feinte timidité, sans minauderie déplacée. Elle sentait aussi bien que moi que sa destinée était irrévocablement liée à la mienne. Mais elle répéta qu'elle ne serait ma femme que de l'aveu de mes parents. Je ne trouvais rien à répliquer. Mon projet devint notre commune résolution. Une heure après, l'ouriadnik m'apporta mon sauf-conduit avec le griffonnage qui servait de signature à Pougatchev et m'annonça que le tsar m'attendait chez lui. Je le trouvais prêt à se mettre en route. Comment expliquer ce que je ressentais en présence de cet homme terrible et cruel pour tous, excepté pour moi seul? Et pourquoi ne pas dire l'entière vérité? Je sentais en ce moment une forte sympathie m'entraîner vers lui. Je désirais vivement l'arracher à la horde de bandits dont il était le chef et sauver sa tête avant qu'il fût trop tard. La présence de Shrabine et la foule qui s'empressait autour de nous m'empêchèrent de lui exprimer tous les sentiments dont mon cœur était plein. Nous nous séparâmes en amis. Pougatchev aperçut dans la foule Akulina Pamphilovna et la menaça amicalement du doigt en clignant de l'œil d'une manière significative. Puis il s'assit dans sa kibitka en donnant l'ordre de retourner à Berde et lorsque les chevaux prirent leur élan, il se pencha de la voiture et me cria « Adieu, votre seigneurie! Peut-être que nous nous reverrons encore !» En effet, nous nous sommes revus une autre fois, mais dans quelles circonstances? Pougatchev partit. Je regardais longtemps la steppe sur laquelle glissait rapidement sa kibitka. La foule se dissipa, Schwabrin disparut. Je regagnai la maison du pope où tout se préparait pour notre départ. Notre petit bagage avait été mis dans le vieil équipage du commandant. En un instant, les chevaux furent attelés. Marie alla dire un dernier adieu au tombeau de ses parents, enterré derrière l'église. Je voulais l'y conduire, mais elle me pria de la laisser aller seule et revint bientôt après en versant des larmes silencieuses. Le père Garassim et sa femme sortirent sur le perron pour nous reconduire. Nous nous rangeâmes à trois dans l'intérieur de la kibitka, Marie, Palashka et moi, et Savielitch jucha de nouveau sur le devant. Adieu, Marie Ivanovna, notre chère colombe. Adieu, Piotr Andreïtch, notre beau faucon, nous disait la bonne femme du pope. Bon voyage et que Dieu vous comble tous de bonheur. Nous partîmes. Derrière la fenêtre du commandant, j'aperçus Schwabrin qui se tenait debout et dont la figure respirait une sombre haine. Je ne voulus pas triompher lâchement d'un ennemi humilié et détournai les yeux. Enfin, nous franchîmes la barrière principale et quittâmes pour toujours la forteresse de Bielogorsk.